Bonjour Irène.
Bonjour Hervé Gardette. Alors comme vous l'avez dit, demain, Livre Paris ouvre officiellement ses portes avec un fil directeur Résistance. Parce que, je cite, « éclairer, c'est résister, résister pour la culture, l'ouverture, la transmission et le partage ». Nous nous sommes donc intéressés à l'univers des livres. C'est en regardant la série diffusée par France Télévisions 10% ayant pour sujet les agents artistiques que Virginie Bloch-Lainé a souhaité enquêter sur le métier d'agent littéraire.
Et c'est dans un pays où la littérature se veut noble et presque sans lien avec le mot commerce.
Oui, et la documentariste estime que la France, parce qu'elle considère encore le livre comme une marchandise différente des autres, est réticente à laisser un intermédiaire se glisser entre l'auteur et l'éditeur. Le métier existe dans l'Hexagone depuis George Sand, mais comme les contrats deviennent de plus en plus compliqués à déchiffrer et que les éditeurs ont davantage de comptes à rendre à leurs actionnaires, les auteurs et les éditeurs se laissent tenter.
Les agents littéraires. Virginie Bloch-Lainé, Anne Nasmuk.
Il m'arrivait d'avoir à essayer de négocier avec des éditeurs. Il n'y avait pas d'espace en fait. On me disait non, c'est comme ça, on ne pouvait pas faire un effort. Non, on ne peut pas. Bon, et donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Soit tu prends tes billes et tu vas trouver un autre éditeur. Mais quand on a la chance d'en avoir trouvé un, généralement, on ne joue pas les fines bouches, quoi. Donc on va rester chez lui puis on va accepter ses conditions. L'agent, lui, il va arriver en disant, voilà, mon auteur, pour l'instant, il vend peut-être pas beaucoup, mais c'est un futur grand, vous faites une erreur si vous le prenez pas, et de toute façon, si vous le prenez pas, il y en a plein d'autres qui le veulent derrière, et d'ailleurs qui sont certainement prêts à payer plus, alors je vous fais une grosse faveur en venant ici, voilà. Donc il a un discours offensif, c'est très difficile pour un auteur d'avoir ce discours offensif à propos de lui-même, quoi. Faut vraiment être sûr de son coup.
J'ai l'impression qu'il y a un moment où c'est presque statutaire, pratiquement. C'est presque une façon d'être dans un club. On est un auteur important. On a un prix et on a un agent. Bon, je le dis un peu ironiquement. Hein, c'est peut-être une vision un peu facile, mais on peut se poser la question. Plus concrètement, c'est évidemment les questions de négociation, qui sont pas forcément des questions de négociation de comment multiplier un avaloir par deux. Il y a des auteurs qui se défendent très très bien eux-mêmes, qui parfois se défendent mieux qu'avec un agent.
Il faut avoir deux cerveaux quand on fait ce métier-là. Il faut être à la fois un cerveau intuitif, avoir du goût, faire des choix qui sont des choix intègres. On publie un auteur parce qu'on l'aime, on ne publie pas un auteur parce qu'on pense que ça va se vendre. Et l'autre partie du cerveau, elle, est une partie plus commerciale, de chef d'entreprise quand on est éditeur ou agent, où il faut allier les deux. Et il n'y a pas tant de gens que ça capables de le faire. David Vann, typiquement, m'a été présenté par un agent français, l'agence L'Apôtre, Michel L'Apôtre, à l'époque, qui m'a appelé en disant « Ah, Oliver, je pense que ce livre-là est pour vous ». Et elle avait raison, le livre était complètement pour nous.
Je pense qu'un auteur qui prend un agent, c'est qu'il se sent mieux avec un agent. Sauf que je pense qu'un certain nombre d'auteurs qui ne se sentent pas mieux avec un agent. Et donc, en fait, en France, il y a très peu d'auteurs qui ont des agents. Très, très peu. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, il est plus en confiance avec un rapport direct avec son éditeur au sein de la maison d'édition que de passer par un agent? Donc, c'est pas si simple, ça. Je pense qu'un auteur qui se sent vraiment mieux avec par l'intermédiaire d'un agent, c'est qu'il ne devait pas être complètement à l'aise en direct ou... Dans un premier temps, qu'ils pensent que ça sera mieux, il y a des auteurs qui ont des agents. Sans donner de nom, je pourrais aussi vous dire qu'il y a des auteurs qui font le chemin inverse, qui se sont laissés séduire par le discours séduisant d'un agent et qui, comme par hasard, ne restent pas très longtemps auprès de lui.
Saint-Germain-des-Prés.
Seulement 2% des écrivains français auraient un agent. Cet intermédiaire entre lui et l'éditeur qui prélève une commission de 15 à 20% sur les droits d'auteur. Les éditeurs français n'aiment pas parler des agents, qui regardent de près le contrat liant un écrivain à une maison. Les quelques écrivains français qui ont un agent n'ont pas tellement envie d'en parler non plus, parce qu'ils préfèrent parler de leurs livres que d'argent, ou ne pas parler du tout. C'est un sujet polémique dans un pays où le lien entre l'écrivain et son éditeur est réputé fort, affectif. Les agents répondent que, justement, les bons comptes font les bons amis et que les écrivains feraient bien de se décharger des négociations financières pour discuter sereinement avec leur éditeur. agents et éditeurs travaillent à quelques rues les uns des autres, dans les 5e et 6e arrondissements de Paris. Il n'y a pas beaucoup d'agents dans la capitale. Nous avons rencontré le plus important d'entre eux, François Samuelson, installé au dernier étage d'un petit immeuble, tout à côté du Val-de-Grâce.
Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je lise les auteurs pour lesquels je travaille? Olivier Adam, Pierre Assouline, Eliette Abécassis, Frédéric Becbédé, Enki Bilal, Emmanuel Carrère, Dai Sidjé, Guy Debord, Virginie Despentes, Olivier Guèze, Cécile Guibert, Michel Houellebecq.
Est-ce que vous êtes surpris par cette folie médiatique autour de vous aujourd'hui, là? Non. Je suis surpris physiquement parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis pressé, mais au fond, non. Je sais que je provoque beaucoup de choses médiatiques.
Ça vous fait plaisir?
Oui. Oui, quand même.
Oui, peut-être.
Alexandre Jardin, Régis Geoffrey, Michel Lebris, Evelyne et Maurice Levert, Bernard-Henri Lévy pour les États-Unis, Simon Liberati, Édouard Limonoff, Catel Muller, Michel Onfray, Stéphane Osmond, la succession Jean-François Revel, Colombe Schneck, Vanessa Schneider, Karine Thuil, Fred Vargas.
François Samuelson, vous êtes agent artistique et littéraire. Vous êtes le plus important agent littéraire de France. Vous êtes né en 1952 à Alexandrie. Vous êtes arrivé en France en 1956, non?
Oui. C'est impressionné. Ouais.
Vous avez maintenant une agence qui s'appelle Intertalent. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire ce que vous avez fait avant d'avoir votre agence?
J'ai fait des études d'histoire-géographie, ainsi qu'une maîtrise d'histoire sur l'histoire du journal Libération, qui racontait les débuts du journal, donc si vous voulez, l'époque héroïque. Ce livre m'a permis de faire un certain nombre d'entretiens culturels, entre guillemets, avec Marguerite Yourcenar, Sartre Foucault. Et l'un de ces entretiens qui était prévu avec Truman Capote m'a fait découvrir un type auquel j'avais affaire, qui s'appelait Alan Hugh Schwartz, qui était l'agent de Truman Capote, ou Capote, comme on dit en anglais. Et c'est ainsi que j'ai découvert le fil à couper le beurre. C'est-à-dire que en Amérique, les écrivains ont des représentants, comme les acteurs, les metteurs en scène, enfin comme des artistes, ou des peintres avec les galeristes, etc. Et donc, à l'époque, il y avait une chose extrêmement curieuse, c'est que les éditeurs répétaient à l'envi qu'il n'y avait plus de littérature française. Ce qui était en même temps pas totalement inexact, puisque la littérature française sortait... je dirais, de beaucoup de coups de boutoir entre le structuralisme dans les sciences humaines ou le nouveau roman en littérature. Donc le récit avait laissé la place aux objets, ou aux choses, comme dirait Georges Perec. Et du coup, je me suis dit, mais c'est curieux parce que à chaque fois que je vais à New York, on ne trouve jamais en traduction des livres d'écrivains français contemporains. On trouve les classiques, mais peu d'auteurs contemporains. Je me suis dit, essayons à ce moment-là d'adopter des méthodes américaines en Amérique pour vendre des livres français aux Américains. Voilà, c'est aussi simple que ça. Premier round, tous les éditeurs étaient contre. Donc il a fallu les convaincre en leur tordant le bras dans le dos. Donc ça s'est fait. On prévoyait une mort rapide de l'agence. Je crois que 35 ans plus tard, elle est toujours vive, alerte et présente à New York. Ensuite, le bureau du livre français de New York. Ouais, il y a un moment, la mode aux États-Unis, c'était le quelque chose. Alors, il y avait le car, le restaurant. On se dit, le bureau du livre français, on va faire simple, pourquoi s'emmerder? Et puis, j'ai appris un métier qui est celui d'agent littéraire. À New York, pendant les 7 années que j'ai passées là-bas, je suis rentré, puis je me suis dit que la seule chose que je savais faire, après tout, c'était d'être agent littéraire et que donc je voulais poursuivre ce travail, ce métier, pardon. Donc, deuxième chapitre avec les éditeurs, ils sont aussi contre.
Oh, là, on est en quelle année, à peu près, François Samuelson, quand vous rentrez?
On est en début 88. Donc, je suis courageux, mais pas suicidaire. Donc, je me suis dit, je vais, exercer ce métier d'agent littéraire à l'intérieur d'une grande agence artistique. Chose qui était courante, qui existait déjà aux États-Unis avec des agences comme William Morris ou ICM. Sauf que le pays est un peu plus grand que la France, donc les agences littéraires sont à New York, les agences artistiques sont à Los Angeles. Ici, tout est à Paris. Et donc, du coup, je suis rentré dans une grande agence artistique qui s'appelle Armédia pour monter le département littéraire. Et j'y suis resté 5 ans, et ensuite j'ai créé Intertalent en 1915. Mon premier client français, il faut lui rendre cet hommage, entre guillemets, ce fut Pierre Assouline, avec qui je travaille toujours, comme Emmanuel Carrère d'ailleurs. Et j'ai réussi à vendre ses livres à Panthéon, qui était une maison dirigée par André Chiffrine, mais surtout la personne qui s'en occupait était Sarah Burchtel, qui a continué jusqu'à très récemment à publier les livres d'Emmanuel. J'avais aussi vendu Daniel Salnave, des bouquins de Duras, et surtout Georges Perec. Perec qui n'avait jamais été traduit en Amérique jusqu'à ce que je force la porte du coffre-fort. Et dans le cas d'Emmanuel Carrère, au début, je n'y suis pas arrivé avec Bravoure et Hors d'atteinte, ces deux premiers romans, mais j'y suis arrivé avec La Moustache. Et là où la chose est importante, c'est que quand vous habitez sur le terrain, quand vous êtes là, les gens vous font confiance parce que quand vous avez toujours le même gars, Samuelson, qui vient revoir la même personne, Sarah Burchtel, chez Panthéon Books, et qui lui reparle toujours du même écrivain, elle finit au bout d'un moment, non pas par se lasser, mais à se dire si le gars insiste tellement, c'est qu'il y croit. Et s'il y croit, comme je le connais et qu'il raconte pas des bêtises, donc je vais m'y intéresser. Et c'est comme ça que les choses se font. Ce que je crois avoir pu prouver, je dirais, indirectement et peut-être même involontairement, c'est que le commerce des droits étrangers d'un livre, c'est un commerce. Et qu'on était dans une certaine posture dans les années 80, du style « la littérature, c'est au-dessus de tout ça ». Et en même temps, c'est une blague. Une maison d'édition, c'est une maison commerciale. Elle a un bilan, elle dépose un bilan, elle doit faire des bénéfices, elle imprime des livres, elle vend des livres. C'est son métier, je veux dire. Alors qu'elle fasse un métier noble, c'est une chose, mais c'est pas pour autant que le principal producteur, à savoir l'écrivain, doit rester le parent pauvre.
Mais ça a changé maintenant, en 2016 ?
Oui, les choses ont beaucoup évolué. Ce n'était plus du tout pareil. Enfin, les années, disons, 80-90, on était encore dans la queue de comète d'un héritage du style Gaston Gallimard allait dîner avec qui vous voulez. Et ils évoquaient, entre la poire et le fromage, le contrat qui devait les unir. Et généralement, vous aviez aussi des grands écrivains qui étaient issus des classes de la haute bourgeoisie, qui étaient des grands diplomates, et pour lesquels le métier d'écrivain n'était pas forcément la source de leurs revenus principaux. Ce qui d'ailleurs est marrant, parce que quand vous lisez les correspondances de Céline avec Gaston Gallimard, en gros, il lui écrit en permanence pour lui réclamer de l'argent, en le surnommant « au sublime coffre-fort », ce qui est plutôt amusant. Je dirais qu'aujourd'hui, avec la montée des classes moyennes, les choses ont beaucoup changé.
Nous n'éditons que la littérature américaine, et donc nous travaillons essentiellement avec des agents.
Oliver Gallmeister, éditeur.
Alors, aux États-Unis, le modèle éditorial est un peu différent. Pour être tout à fait franc, le marché est écrasé par des maisons très capitalistiques qui, elles, sont uniquement conduites par la recherche du profit. Il y a des maisons indépendantes qui suivent des auteurs, et il y a des toutes petites maisons qui, très fréquemment, mettent la clé sous la porte. Mais aux États-Unis, la structure est différente, puisque pour être publié, il faut avoir un agent. Dans 99,9% des cas, les maisons d'édition refusent les auteurs qui n'ont pas de représentation. Donc, ça veut dire qu'en fait, la relation que bâtit un auteur aux États-Unis, il l'a bâti avec son agent, plus qu'avec son éditeur. Parce que les maisons sont extrêmement sévères et oui, même, on peut même dire cyniques. Et c'est là que le rôle de l'agent américain est différent. C'est-à-dire que là, il n'est pas juste dans la négociation, c'est lui qui travaille le manuscrit. C'est lui qui encourage l'auteur, c'est lui qui sollicite des projets ou pas, et après, il se charge de le vendre. Donc en fait, en réalité, être agent aux États-Unis, c'est beaucoup plus intéressant qu'être éditeur aux États-Unis, ça c'est sûr.
Est-ce que le fait qu'il y ait des agents aux États-Unis, ça lisse la qualité éditoriale de la production ? C'est-à-dire qu'un agent, il est intéressé par un écrivain si cet écrivain vend. Et pour vendre, eh bien, il y a un cahier des charges auquel se conformerait un écrivain pour être sûr de faire un certain nombre satisfaisant de ventes.
Alors, d'après mon expérience, je pense que les agents sont comme les éditeurs, et comme les écrivains eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a tout. Ils sont représentatifs de leur milieu. L'édition, c'est un monde commercial, c'est-à-dire qu'on, certes, on fait du commerce de l'esprit, mais on est là pour espérer vendre des livres, pour effectivement faire connaître des auteurs, pour défendre une certaine vision de la littérature. Et entre ces trois objectifs, il y a forcément des arbitrages. Et donc, en réalité, non, je pense pas que les agents soient responsables de quoi que ce soit. C'est les éditeurs qui font les livres, c'est pas les agents. Donc après, peut-être, et il existe évident certains agents qui vont faire de la fiction commerciale plus que littéraire, qui vont chercher des machines à best-seller plutôt que des vrais auteurs. Il y a aussi des vrais auteurs qui sont des machines à best-seller. Donc non, je pense pas que les agents soient responsables de quoi que ce soit, en fait. Les agents sont, oui, inévitables, mais fondamentalement, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Ça permet pour une maison comme la nôtre, c'est-à-dire une structure de taille moyenne et où on a des contacts directs avec les auteurs, par exemple, d'évacuer les affaires financières, les histoires de négociation, les histoires d'argent, tout ce qui est contractuel, en discutant avec l'agent, qui est l'intermédiaire de l'auteur et qui donc défend ses intérêts, et de se concentrer, lorsqu'on est en rapport avec les auteurs, sur la littérature, leurs projets de livres, sur des choses beaucoup plus intéressantes, me semble-t-il, en tout cas pour eux. Prenons un auteur qui a publié 10 livres, traduit dans 5 pays. C'est donc déjà un auteur qui a du succès. Et ça lui fait 50 relevés de droits par an. Donc il faudrait qu'il ait des compétences commerciales, financières, comptables, juridiques, qu'il a pas, ça c'est du temps. Donc déjà, l'agent permet à l'auteur de gérer l'aspect pratique et matériel de son travail. Beaucoup d'auteurs, malheureusement, n'ont pas forcément les compétences techniques nécessaires pour ça. Donc ça, c'est une fonction de l'agent. L'autre fonction, c'est une fonction de représentation, d'intermédiation, et de permettre à l'auteur de trouver les éditeurs adéquats pour développer son œuvre.
Les écrivains américains, grâce aux agents, gagnent mieux leur vie que les écrivains français ?
À mon avis, ça, c'est une légende urbaine. Moi, je peux vous donner par dizaines des exemples d'auteurs qui sont publiés chez nous, par exemple, mais pas seulement, qui ont des agents et qui travaillent à l'usine. Donc non, ils vivent pas de leur plume. Les auteurs qui vivent de leur plume sont relativement rares. Je suis pas sûr que les Américains vivent mieux que les Français, simplement nous on les voit plus parce qu'en France on est intéressé par ça et qu'on a la chance d'avoir un paysage éditorial qui est très ouvert sur le monde. Puisque 50% de nos livres en littérature sont des livres de littérature étrangère. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas aux États-Unis, pas du tout le cas au Japon, par exemple. Je crois qu'au Japon, c'est 5%. Donc, nous, on a une vision de la littérature très mondialisée. C'est formidable, mais les Américains s'en sortent pas tellement mieux que les Français, je crois pas.
C'est bizarre. C'est très bizarre.
Ne vous inquiétez pas, Julien.
Il aurait dû m'appeler. Il m'appelle toujours une demi-heure avant pour me dire. Même quand c'est pas bon, il m'appelle.
C'est n'importe quoi cette année. Déjà avec leur première liste annulée, vous avez vu?
À mon avis, ça doit chauffer. D'ici à ce que les Gallimard nous aient fait un coup de Trafalgar. Non, c'est pas le mien. C'est le vôtre, Stanislas.
C'est ma mère.
Répondez, Stan, répondez-lui.
Tac, maman. C'est votre nièce? On attend. Je devrais appeler, maman. Parce qu'ils sont, toujours en train de voter, quoi.
Anne Solange-Noble, vous travaillez chez Gallimard, on est dans votre bureau. Vous êtes directrice des droits étrangers. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi consiste votre métier? Vous vendez quoi à qui?
Alors déjà, c'est bien d'avoir vu que je vends, parce que effectivement, quand on pense droits étrangers, dans notre jargon, ça veut dire trouver à l'étranger, des éditeurs susceptibles de bien vouloir traduire et publier nos livres écrits en français, et donc nous acheter les droits de traduction. Je cède à l'étranger les droits de publication en traduction de tous nos livres, c'est-à-dire aussi bien de la littérature que des sciences humaines, mais aussi bien des nouveautés, le tout récent roman, de Boualem Sansal, mais aussi un vieux Sartre ou Beauvoir qui n'aurait jamais été publié en hongrois.
Vous vendez à qui? Vous vendez à des agents, vous vendez à des éditeurs ou aux deux?
Je vends des droits de publication en traduction. Et j'ai fait exprès de le dire comme ça parce que les gens pensent que je vends des droits de traduction. Ben, pourquoi je ne les vendrais pas à un traducteur dans ce cas-là? J'ai bien dit que je vends des droits de publication en traduction. Or, à ma connaissance, un agent n'est pas un éditeur, il ne publie pas. Un agent ne publie pas. Un agent, il n'est pas éditeur, il ne négocie pas le prix du papier avec un imprimeur pour fabriquer le livre, il n'a pas de réseau de distribution. Voilà, donc un agent, c'est un agent, un auteur, c'est un auteur, et un éditeur, c'est un éditeur. Je vends à des éditeurs le droit de publier en traduction nos ouvrages. C'est un risque éditorial d'être éditeur. C'est non seulement choisir de publier un livre après l'avoir évalué, après avoir pensé qu'il correspondait au catalogue. C'est acheter les droits, c'est fabriquer le livre, c'est prendre un risque financier parce que effectivement tous ces coûts-là, c'est l'éditeur qui les assume. C'est payer l'attaché de presse pour qu'elle en parle aux journalistes, c'est payer le directeur des ventes pour qu'il vende le livre, c'est avant ça avoir payé les gens de la maquette pour avoir fait une jolie maquette, voilà. Donc c'est bien parce que le manuscrit français a été publié par un éditeur français qui a pris ce risque éditorial, a fait tout cet accompagnement de l'auteur, vendu le livre. C'est pas l'agent qui a fait ça. Donc l'agent, il va quand même se baser, pour ne pas dire surfer, sur le succès en France du manuscrit français, pour ensuite se retourner vers des éditeurs étrangers en disant « Bonjour, est-ce que ça vous intéresse ?» Sauf que moi, quand je fais ça, puisque je suis un des rouages de cette grande maison où nous travaillons tous ensemble dans une véritable synergie d'efforts pour accompagner l'auteur le mieux possible, moi, j'ai tous ces renseignements qui intéressent les éditeurs étrangers. Comme ce n'est pas l'agent qui a fait attaché de presse, c'est pas lui qui a les articles de journaux, voilà, c'est pas lui qui a les chiffres de vente, alors il peut les demander, bien sûr, il y a toute cette, il va être obligé de quoi, de demander à 3-4 personnes différentes. Moi, j'ai en temps réel tous les éléments qui vont intéresser l'éditeur étranger, parce que l'éditeur étranger, il va me dire, ah oui. Tu penses que ce livre pourrait m'intéresser ? Alors là, je lui dis, bah, écoute, tel que je te connais depuis longtemps, tel que je connais ton catalogue, tes goûts littéraires, tel que je connais ce livre que j'ai lu, parce qu'on ne peut pas vendre un livre qu'on n'a pas lu, je l'ai évalué et je pense que vraiment, vraiment, ça devrait t'intéresser, ça devrait bien correspondre à ton catalogue. Alors il va me dire, mais alors est-ce que ça a bien marché chez vous ? Est-ce que vous avez des articles de presse ? Comment étaient les ventes ? Tout ça, ça va jouer dans sa décision. Et c'est ça ce que nous offrons à un auteur. Eh bien, je suis peut-être l'agent de l'auteur au sein de la Maison Gallimard.
Cynthia Libaud, vous pouvez présenter votre maison d'édition. Vous êtes d'origine américaine.
Je suis américaine.
Vous êtes américaine.
Oui, totalement. Mais je suis américaine, mais je suis en France depuis longtemps. Donc, du coup, à la différence de certains autres anglo-saxons à Paris, j'ai fait toute ma carrière en France. Mais en revanche, j'ai toujours travaillé avec l'Angleterre et les États-Unis parce que je m'occupe de littérature étrangère principalement.
Cynthia Libaud, pourquoi c'est aussi polémique ce sujet ? Pourquoi c'est aussi difficile de faire parler les éditeurs, les écrivains et les agents les uns des autres et du métier d'agent littéraire en France ?
Oui, en France. Moi, je dirais qu'il y a une approche différente vis-à-vis des agents. Les Français, traditionnellement, ça change un peu maintenant, mais traditionnellement, les éditeurs français voient les agents comme soit un gêne, c'est-à-dire ils interfèrent, ils interviennent, et donc ils gâchent quelque part ou ils menacent la bonne relation de confiance entre l'auteur et l'éditeur. Les Français pensent souvent que l'agent ne veut que l'argent, c'est-à-dire il veut faire monter les enchères, et donc il rend notre vie, la vie d'éditeur, beaucoup plus difficile. Donc ça, je dirais, c'est les deux choses un petit peu traditionnellement que les Français peuvent avoir contre les agents, je crois. Alors que les Américains ou les Anglais vont dire, mais non, l'agent est là pour protéger les intérêts de l'auteur, pour lui obtenir de meilleurs deals, non seulement de l'argent, mais des tas de choses dans le contrat, des pourcentages maintenant sur le numérique, des choses qui pourraient lui échapper parce que c'est très technique. Ils ont tous plus ou moins des formation de juriste, en tout cas, ils sont compétents pour négocier les contrats. Et pour beaucoup de choses, ils sont là pour protéger l'auteur. Par exemple, s'il n'a pas été payé, pour demander qu'il soit payé, pour demander les comptes, plein de choses. Donc, je dirais que selon l'auteur, si un auteur est bien traité par son agent et qu'il est proche de son agent, ça peut vraiment l'aider effectivement à avancer. Par exemple, mettons que c'est un auteur qui n'est pas quelqu'un d'agressif, qui ne sait pas se défendre, ou qui est peut-être juste modeste, qui ne sait pas se vendre. Eh bien, à supposer qu'il ait un agent qui, lui, est une grande gueule, ou simplement un bon businessman, qui sait vraiment bien parler de ses auteurs, mais effectivement, il va peut-être obtenir de bien meilleures choses, non seulement de l'argent, mais de meilleures conditions, des tas de choses, par l'intermédiaire de quelqu'un qui sait mieux parler que lui. Et d'ailleurs, c'est vrai de beaucoup d'artistes, il y a des gens qui ne se rendent pas compte d'eux-mêmes de ce qu'ils valent. Donc, selon la nature et le tempérament de l'agent, il peut vraiment, effectivement, trouver de meilleures choses pour son auteur. Du point de vue de l'éditeur, ce que moi, j'attends et ce que j'espère d'un agent, c'est quand même un peu d'indulgence, un peu de tolérance, qui voit les difficultés d'une petite maison par rapport à une grande, qui soit prêt à attendre 2 mois pour être payé du moment où il sait qu'il va être payé, que les conditions soient un petit peu plus souples. Mais en revanche, je pense qu'on doit donner beaucoup de nous-mêmes en termes de performance, de soutenir l'auteur. Je pense que si l'agent sent que vous êtes dynamique et vous faites beaucoup en termes de promo, de presse pour l'auteur, pour le reste, il va être un peu tolérant. Enfin, quand il sent intelligent.
Ah, ça fait plaisir de vous voir.
Oui, tout à fait.
C'est votre combientième livre dans la maison, Jean-Pierre?
Ma foi, 13. Et en comptant les 2 essais sur Lamartine et Supervielle.
Ah oh, oui, ceux-là, je les avais zappés. On n'en a pas sorti beaucoup de ces deux-là non plus. Mais 13, ça commence à faire quelque chose. Hein.
Merci. C'est un chiffre qui porte bonheur.
Ou au contraire, malheur, ça dépend. Bon. Oh. Je ne vais rien vous cacher, Jean-Pierre. On a du mal avec votre ciel de traîne.
Sous un ciel de traîne.
Ah, très beau titre. Pas assez accrocheur, mais bon, c'est votre choix.
Le Carpaccio de monsieur. Merci.
Allez-y, Jean-Pierre, commencez. Faut pas attendre avec le Carpaccio. C'est quoi les ventes de votre dernier?
Attaque, c'est Palinodi?
Ah ben, c'était cet estre-là, oui. On avait eu du mal aussi à cause de ça.
765 exemplaires.
Bon, vous n'aimez pas le soleil, mais ça vous fait drôlement du bien. Vous avez déjà pris des couleurs, hein. Ah, oui. 765 vendus ou 765 sorties?
Je ne sais plus.
Peu importe, c'est très faible, quoi. Ça risque d'être encore moins ce coup-ci. C'est une question, je n'arrive pas... C'est-à-dire que, sur vos livres précédents, je ne dis pas que c'était facile. Il fallait aller à la pêche, mais à force de lancer des lignes, j'arrivais quand même à le faire lire à 2 ou 3 personnes. Bon, ça ne débouchait pas forcément sur des articles. Il y avait eu des articles sur le dernier?
Non.
Ah oui, c'est possible, oui. Mais enfin, les gens m'en avaient parlé. Ils n'aimaient pas du tout votre livre, mais... Enfin, il n'aimait pas tout, ça. Mais on sentait... Je me brûle la langue, c'est l'enfer. Je disais quoi? Ah oui! Que pour le dernier, j'étais arrivé à le faire lire. Pas forcément jusqu'au bout, mais bon. Là, comment vous dire ça? C'est pas qu'il ne l'aime pas.
Il leur tombe des mains.
Ah, mais ils ne prennent même plus le risque, Jean-Pierre. Ils ne veulent plus l'ouvrir. Je n'arrive pas à leur faire ouvrir votre livre, vous comprenez?
Je comprends. Mais vous, Anne-Sophie, est-ce que vous l'avez ouvert?
Enfin, mais moi, Jean-Pierre, depuis toujours, j'adore votre écriture. Vous le savez, d'ailleurs.
Elena Marienske, vous êtes écrivaine. Vous êtes éditée chez Flammarion et vous avez un agent qui est Pierre Astier. Pourquoi vous avez pris un agent et depuis combien de temps vous avez pris un agent?
Alors j'ai pris un agent quand je suis partie de chez POL, qui avait publié mon premier roman, Résus, Et j'ai décidé de changer d'éditeur. Et j'étais complètement démunie. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout à qui m'adresser et je me rendais compte que les relations entre éditeur et auteur sont quand même assez complexes. Beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Et j'ai vraiment éprouvé le besoin d'avoir un agent pour m'aider, pour trouver un nouvel éditeur et puis pour m'aider à lire les contrats, à mettre en place un certain nombre de choses. Donc je me suis mise en chasse d'un agent, j'en ai vu 3. Et j'ai choisi Pierre Astier parce que Pierre est un ancien éditeur. Et je me suis dit, c'était l'éditeur du Serpent à Plumes, et je me suis dit, avec Pierre, je vais être avec quelqu'un qui va pouvoir se mettre du point de vue de l'éditeur et donc faire des propositions, être dans un travail d'équipe avec l'éditeur et avec moi, bien sûr, et pas être, comment dire, en conflit. Avec l'éditeur, lui demander des avaloirs exorbitants, etc., mais être plutôt en dialogue. Voilà. Et c'est un petit peu ce que je lui demande et qu'il est tout à fait capable de faire parce que lui, il a été éditeur, donc il sait ce que c'est que gérer des problèmes d'éditeur. Voilà. Donc ça me permet d'avoir un dialogue vraiment facilité avec mes éditeurs. Mais vous savez, je pense que si j'avais eu Pierre Astier comme agent à l'époque où j'ai travaillé, où j'ai été publiée chez Paul, je ne serais peut-être pas partie. Parce que je pense que c'était mon premier roman, Résus. J'y tenais énormément, j'avais mis 8 ans à l'écrire, enfin c'était un truc énorme pour moi. Et il y a eu un malentendu, et je pense que si j'avais pu en parler avec Pierre, peut-être qu'au lieu de prendre la mouche et de partir sur un malentendu, peut-être que les choses auraient été très différentes.
Elena Marienskaye, Pierre Astier a négocié un contrat entre vous et Flammarion, un partage qui est différent de ce que fait spontanément une maison d'édition.
Oui, parce que grâce à Pierre, je reste propriétaire de mes droits étrangers et de mes droits audiovisuels. C'est-à-dire que si je signe des traductions, j'en ai eu dans 5 ou 6 pays pour Résus, j'en ai eu pour Fantasy Sarabande, je vais en avoir là pour Les Ennemis de la Vie Ordinaire. Les droits sont à moi. Et je verse à Pierre Astier 20%, je crois, pour les droits étrangers. Et pour les droits audiovisuels, normalement, c'est 50% pour l'auteur, 50% pour l'éditeur. Là, je reste propriétaire de la totalité de mes droits audiovisuels. C'est-à-dire que si un film se fait, les droits me reviennent. Et là encore, je verse 20% à Pierre Astier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme différence? Oui, une différence majeure, c'est que je ne signe aucun droit de suite à mon éditeur. C'est-à-dire que, vous voyez, le droit de suite, c'est le fait d'être obligé de publier au moins 3 romans chez un éditeur. Moi, j'ai donné 2 romans à Flammarion, mais rien ne m'oblige dans les textes à rester chez Flammarion. Et par exemple, quand j'ai pris la mouche bêtement, pour mon premier roman chez Paul, j'avais un droit de suite qui était de 2 autres romans. Et comme ce que je voulais publier après, c'était un recueil de pastiches, ça faisait en fait 3 autres livres qui devaient sortir chez lui. Et ça me mettait une pression énorme. Et si j'avais pas eu cette question de droit de suite, je pense que j'aurais été beaucoup plus détendue et que j'aurais pris les choses avec beaucoup plus de philosophie et de sagesse.
Il y a ce truc avec la littérature de dire, voilà, je te publie, c'est une grande chance. Et d'autant plus si je suis un éditeur prestigieux. Tu vas pouvoir frimer auprès de tes amis. C'est un accomplissement. Tu en as certainement toujours rêvé. Donc, tu es très content d'être là.
Ma maison est prestigieuse. Il y a des
maisons. On va vous dire, voilà, je ne citerai pas de maison, mais il y a des maisons où on va vous dire, tu es quand même chez un tel. Hein. Et donc, à partir de là, c'est une grande chance. Donc, en gros, tu ne veux pas non plus l'argent du beurre. Quoi. Et ça, c'est totalement infondé. Il faut retourner aussi la logique et dire que l'éditeur, il a besoin d'auteurs. Sauf que des auteurs, il y en a plein. Et qu'on est dans le pays où il y en a peut-être le plus grand nombre, enfin en tout cas des aspirants. Donc c'est vrai que moi, Fabrice Collin, si demain j'arrête d'écrire pour tel ou tel éditeur, peut-être certains seront un peu tristes et peut-être au niveau humain, où ils auront peut-être l'impression de perdre quelqu'un au catalogue, mais personne ne viendra me chercher à tout prix en me tirant par le bras et en me suppliant de rester. parce que c'est, encore une fois, il n'y a pas d'enjeu économique, quoi. Donc après, c'est à chaque éditeur de voir quel est son intérêt. Moi, je pense qu'un bon éditeur, et heureusement, il y en a, ne se préoccupe pas du tout uniquement l'argent. C'est quelque chose qui fait partie de son métier, parce que sinon, sa maison se casse la figure et plus publier personne. Mais bon, voilà, chacun défend ses intérêts.
François Samuelson, quand vous négociez un contrat pour un écrivain, est-ce que vous évitez toujours le droit de suite ?
Oui, parce que le droit de suite, on pourrait appeler ça aussi le droit de cuissage. Le droit de suite, au-delà de la gaudriole, est une clause absurde. Le droit de suite, tel qu'il était rédigé par les éditeurs, c'est de dire que monsieur ou madame auteur fera 5 livres dans le même genre de livre et aux mêmes conditions économiques. C'est-à-dire que vous vendiez 3 livres ou 300 000, théoriquement, vous êtes censé avoir le même contrat. Je pense que même devant un tribunal, ça ne tiendrait pas.
Et ça, c'est ce qui est automatiquement proposé par tous les éditeurs à un écrivain qui n'a pas d'agent.
Un contrat, c'est un rapport de force. Donc à partir de là, un jeune auteur qui publie son premier livre, il est bizuté. Et un écrivain confirmé n'est pas dans la même situation. C'est rien de nouveau sous le soleil. Il y a un peu une espèce de comédia dell'arte quand on discute. Enfin, chacun monte sur scène avec sa grande épée en bois, et fait son numéro. Mais au final, je dirais, depuis que j'exerce à Paris, ce qui fait quand même un bail, je les connais à peu près tous. Pour certains, ce sont des amis. Je parle des patrons des maisons d'édition. Et les choses vont assez vite. Et puis quand vous connaissez bien votre métier, que vous le pratiquez, vous finissez par savoir, je dirais, dans la fourchette acceptable, où est la fourchette haute et où est la fourchette basse. Évidemment, on ne regarde pas la fourchette du même côté, mais finalement, on arrive à mettre le plat sur la table.
C'est un nouveau coup dur pour François Hollande. Son ex-compagne Valérie Trierweiler publie un livre qui sort demain en librairie. Merci pour ce moment.
Le livre de Valérie Trierweiler a déjà été vendu à 600 000 exemplaires en France.
C'est l'une des deux ou trois meilleures ventes depuis 50 ans. C'est tout à fait hors norme. Inattendu, ça nous dépasse complètement.
L'ouvrage, qui a également été numéro un des ventes en Suisse et en Belgique, devrait se décliner au total en 11 traductions.
Le polonais, bien sûr, son agent, elle est quadrilingue, donc elle est assez incroyable.
On sait d'abord que la transaction s'est faite par l'intermédiaire d'un agent littéraire, Anna Jarotta. Elle est d'ailleurs remerciée à la fin du livre. Anna Jarotta a non seulement centralisé les demandes des éditeurs, mais elle a beaucoup travaillé sur le manuscrit lui-même avec Valérie Trierweiler. Le patron des éditions Les Arènes, Laurent Beccaria, est également intervenu. C'est quelqu'un qui a l'habitude de beaucoup réécrire les manuscrits de ses auteurs. Le montant de la valoir reste confidentiel, mais on peut faire un rapide calcul. 14% du prix de vente sur un livre qui devrait coûter environ 20 euros, tiré à 200 000 exemplaires, Valérie Trierweiler a pu toucher autour de 250 000 euros.
Vous avez été l'agent de Valérie Trierweiler pour son livre « Merci pour ce moment » qui a été édité aux éditions des Arènes. À quel moment vous intervenez ?
C'est moi qui ai trouvé l'éditeur. Donc, un agent intervient tout au début, même parfois avant que l'idée de livre existe dans la tête d'un écrivain ou d'un auteur. Donc, nous sommes vraiment la première personne à qui un écrivain se confie, avec qui il discute une nouvelle idée pour son livre, où l'idée est au court. Dans le cas de Valérie, c'était justement ça. Elle ne savait pas si elle allait écrire un livre, mais il y avait énormément des éditeurs qui lui proposaient des contrats et qui lui faisaient des propositions. Et c'est là où elle a fait un appel à moi et elle a bien fait parce que c'est moi qui a géré toutes ses demandes. Et au moment où elle a été prête pour commencer l'écriture, je lui ai trouvé un éditeur. Donc c'est moi qui ai fait la démarche auprès des Arènes.
Anna Jarotta, les éditeurs reprochent aux agents des pays anglo-saxons de faire monter les enchères pour un livre entre les éditeurs. et de le donner au plus offrant.
Et pourquoi pas? Je pense qu'un éditeur, il fait ses comptes. Donc, s'il trouve qu'il ne peut pas offrir une certaine somme, parce qu'il ne va pas gagner l'argent avec ses livres s'il offre trop à l'écrivain, à un auteur, il ne va pas offrir, tout simplement. S'il offre ces gens de montants qui sont demandés par les agents, qui défendent leurs auteurs et qui les négocient pour leurs auteurs, ça veut dire qu'ils trouvent leur compte. Parce que sinon, ils ne publieraient pas. Donc, dans cette reproche aux agents de la part des éditeurs qui disent que nous, on monte les enchères, il y a un souhait de ne pas payer suffisamment leurs auteurs.
Quelle est la commission d'un agent, Anna Yarota?
Donc, la commission d'un agent est 15% en France et 20% à l'étranger.
Lorsque un auteur prend un agent, c'est peut-être parce qu'il se dit qu'avec l'agent, la valoir qu'il recevra de la part d'éditeurs étrangers sera plus important. Anne-Solange Noble.
Un avaloir se négocie par rapport à un projet éditorial. Donc, si on demande trop d'argent, si la maison d'édition est en fait finalement, 2 ans plus tard, furieuse d'avoir trop payé et ne prend pas le roman suivant de l'auteur, dont la carrière est cassée parce que sa maison d'édition étrangère ne prend pas le suivant et les autres ne le prennent pas non plus en se disant « Oh, celui qui avait pris le premier, il n'a pas pris le deuxième. Mauvais signe ça, ça ne doit pas tellement bien marcher que ça. » Donc on peut faire beaucoup de tort à un auteur si on négocie de façon déraisonnable.
Un avaloir, une mise en place, sont des indicateurs sur l'implication de l'éditeur par rapport au livre. Il y a beaucoup de livres qui sont publiés. Mon dernier, il est sorti à la rentrée littéraire de 2015. Il y avait 600 et quelques livres qui étaient publiés. Donc, avoir un avaloir, c'est pas simplement obtenir de l'argent. Bien sûr que ça compte. Même si on n'en vit pas, on a quand même besoin de faire bouillir la marmite. Mais si l'éditeur donne un avaloir ridicule, je sais qu'il y a des auteurs, j'ai des amis auteurs qui reçoivent des avaloirs de 1000 euros. Voilà. Un éditeur qui met 1000 euros ne prend aucun risque. Si un éditeur met un avaloir plus conséquent, c'est pour moi un marqueur de l'intérêt qu'il porte à mon livre et de l'investissement qu'il va faire en travail sur mon livre.
Les agents, c'est un petit peu... Il faut savoir aussi les gérer. Et c'est drôle parce que j'ai des auteurs qui se cachent derrière l'agent pour obtenir plus de choses. Par exemple, l'agent va venir me taper sur la tête pour être payé à temps et l'auteur ne va jamais me parler d'argent. Et puis d'autres, où c'est un peu le contraire, ils vont faire l'interface entre moi et l'agent. Ils vont dire « Ah, ne t'inquiète pas, je vais dire à l'agent que ce n'est pas le bon moment, etc. » Et j'en ai un qui me dit « N'oublie pas, ce n'est pas moi qui travaille pour l'agent, cet agent travaille pour moi. » Donc, c'est-à-dire, je ne me laisse pas faire, je la laisse s'occuper de mes affaires, mais c'est moi le décisionnaire. Et d'ailleurs, les agents, même très puissants, ils ne vont jamais aller contre la volonté de l'auteur. Si un auteur leur dit « Non, vous me recommandez cet éditeur, mais moi je ne le sens pas, ou même si c'est plus d'argent, je préfère tel autre », l'agent ne va pas insister, il se rend très bien compte que le boss, c'est l'écrivain.
Il y a aussi quelque chose qui est difficile à quantifier, et à analyser, mais c'est une forme de quantification des rapports entre un auteur et son éditeur, qui sont des rapports de confiance, qui sont des rapports d'engagement. Il est loin d'être rare qu'un éditeur perde de l'argent pendant des années et des années sur l'œuvre d'un auteur. Ça me paraît pas complètement illégitime qu'il se sente un petit peu floué quand, au bout de 20 ans de soutien à l'œuvre d'un auteur, il peut voir arriver un agent qui va lui dire « Bon, ben maintenant, on va durcir un peu les conditions, et puis le contrat, ça sera pour 10 ans, et pas autrement. » Donc, C'est toujours très compliqué, mais je pense qu'il y a une manière propre de faire notre métier d'éditeur et de faire le métier d'agent, qui est de viser l'intérêt de l'auteur sans considérer que le monde entier est voué à la perte de cet auteur-là. Si vous voulez, les gens travaillent en bonne entente, en bonne intelligence depuis des siècles, oui, on peut le dire. Je pense qu'il y aura toujours une partie d'auteurs aigris qui vont expliquer que s'ils n'ont pas de succès, c'est parce qu'ils n'ont pas d'agent, ou parce que leur agent n'est pas bon, ou que les éditeurs sont méchants et que le monde est ligué contre eux. Il y aura des éditeurs qui vous expliqueront la même chose, et des agents aussi sans doute.
Cynthia Libaud, vous êtes l'éditrice de Robert Little, qui a un agent.
Qui a un agent, oui.
Comment
qui a plein d'agents. Alors, Robert Little, il a un primary agent, un Américain qui vit à Londres, Ed Victor, et qui est un agent très important, très connu. Et il a un sub-agent qui se trouve, là c'est un petit peu une exception, qui se trouve être aussi à Londres, qui est Andrew Nirenberg, aussi très connu. C'est lui qui s'est occupé du fils de Robert Little, Jonathan Little, qui a eu le grand best-seller Les Bienveillants. Alors, Robert Little, lui, oui, il est très proche de ses deux agents. C'est un peu compliqué simplement parce qu'il y a toujours beaucoup de monde à qui écrire. Donc, on se dit, ah, je l'ai dit à un tel, j'oublie de le dire à un tel, il faut tenir tout le monde au courant. Mais quand un livre marche bien, en fait, on va envoyer la couve, envoyer la presse, on va envoyer les articles, et c'est une espèce de jubilation collective. Et tout le monde est vraiment très content. Et en général, c'est des relations... Enfin, moi, j'ai la chance d'avoir des relations qui se développent dans le temps. Je publie Robert Little depuis plus de 25 ans. Et c'est le cas avec pas mal de mes écrivains, je les suis. Ils me suivent aussi parce que j'ai changé plusieurs fois de maison. J'ai eu la chance qu'ils m'aient suivi. Et donc, pareil avec les agents, je veux dire, ils suivent. Alors, en revanche, une des raisons pour laquelle parfois les agents ont mauvaise presse ou mauvaise réputation, c'est qu'il y a des cas, assez fréquents quand même, où si un auteur n'est pas content, c'est l'agent qui va peut-être chercher à le changer de maison. Et là, ça crée beaucoup d'histoires parce que la première maison va avoir un sentiment de trahison. Ah, quelqu'un d'autre a sorti son chéquier et a acheté mon auteur. En général, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas que l'argent, c'est d'autres choses. On ne le réimprimait pas assez souvent, on ne lui trouvait pas des poches. Enfin, c'est un ensemble de conditions.
Ah, c'est lui. Voilà. Oui, Bernard, je t'écoute, oui. Pardon, tu peux répéter, excuse-moi de...
C'est peu faire le ciel de traîne.
Sous un ciel de traîne. Comment ça s'est passé?
Mais c'est la démocratie, mon vieux. La démocratie, tout était bloqué. Alors j'ai eu l'idée, écoute-moi bien, Julien.
Oui, oui, oui.
J'ai eu l'idée géniale de suggérer à Debray de lancer le nom de Binet, le Grasset.
Liliane, il faut appeler Jean-Pierre Pecher.
Et c'est... du coup, Edmond, croyant le contrer, parce qu'elle a une dent contre Régis en ce moment, ah, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on s'en fiche, mais du coup, elle a lancé le premier nom qui lui est venu à l'esprit, celui de Pecher. Et je savais qu'elle sortirait ce nom-là, pour la bonne raison que je ne lui ai parlé que de ça hier soir au téléphone. Je lui ai bourré le mou pendant une heure sur Pecher. Comme quoi c'était le vrai chef-d'œuvre de la rentrée. C'est vrai que c'est un livre formidable.
Ah, oui, formidable.
C'est difficile à expliquer, mais quand on lit ça, on est enveloppé dans une brume. Une brume chaude de connaissances. Cette brume qui est aussi celle des souvenirs qui s'estompent. C'est comme le temps dans Proust. Cela n'existe pas et il n'y a rien d'autre. Enfin, bon, ta maison est sauvée, mon vieux. Une fois de plus, tu dois être soulagé.
Oh, immensément, Bernard.
Est-ce qu'il y a un nombre de ventes en dessous duquel ce n'est intéressant ni pour l'écrivain ni pour l'agent de signer un contrat ensemble?
Un auteur, et ça m'est arrivé d'avoir des amis qui ont écrit un premier roman et qui m'ont sollicité, et parfois ça s'est passé, c'est-à-dire Stéphane Osmond avec Le Capital que j'ai proposé à Grasset et qu'il l'a publié avec une bonne fortune, puisque je crois me souvenir qu'il avait vendu 25 000 exemplaires, ce qui pour un premier roman assez important et quand même pas mal. Et puis dans d'autres cas où j'ai suggéré à la personne avec laquelle j'évoquais cela que peut-être c'était beaucoup mieux qu'elle aille toute seule voir l'éditeur, parce que c'était pas mon intervention changerait les choses à la marge. Et donc je suis assez lucide pour ne pas, je dirais, m'insister ou m'incruster quand je pense que ça va faire du tort à la personne.
Est-ce qu'un agent, on peut aussi aller le voir, non pas pour signer un contrat avec lui et pour qu'il aille auprès de l'éditeur représenter l'écrivain, mais pour avoir des conseils, mais sans être représenté? Est-ce que vous faites ça aussi?
Je le fais avec des amis, mais moi, je suis pas le service public. On n'est pas là quand même. Non, non. Non, parce que la différence entre mon métier et celui d'un avocat, justement, c'est une bonne comparaison. Un avocat, si vous voulez, il rencontre quelqu'un pour une affaire en particulier, il envoie une note d'honoraire et la relation s'arrête là, si j'ose dire. Une agence littéraire a une relation avec un auteur sur le long terme. Si vous voulez, vous avez le gars en pension 12 mois, si j'ose dire. Et sur les 12 mois, plusieurs années, peut-être qu'il ne fait rien, mais vous gardez une relation avec lui ou elle. Donc la démarche est proche, mais les métiers sont exercés de manière très très différente. Non, non, on ne vient pas mettre un jeton dans la machine. Non, non, ça ne marche pas comme ça.
Anne-Solange Noble, quels sont les autres pays, à part l'Angleterre, où il y a des agents en Europe ?
Je mets de côté les pays anglo-saxons, c'est vraiment une question de système. Dans les pays hispaniques, pour des raisons historiques, oui, il y a un phénomène d'agent, tout simplement parce que, à la suite d'une très 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 grande agente littéraire qui est morte récemment et qui s'appelait Carmen Balcells, formidable femme qui, à l'époque où les pays d'Amérique latine étaient sous des dictatures sanglantes et que les écrivains, en général intellectuels donc, ne pouvaient absolument pas publier, si tant est qu'ils pouvaient même écrire s'ils n'étaient pas en prison, il y avait un certain nombre d'écrivains latino-américains qui ne pouvaient pas être publiés dans leur pays. Et elle, qui écrivent en espagnol comme en Espagne. Et elle a comme ça représenté un certain nombre de très très grands écrivains. Je parle des García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, tous ces gens-là. Elle les a, effectivement, elle s'est occupée de leurs manuscrits, elle s'est occupée de les publier, elle a vraiment été leur agent, pour ne pas dire leur maman, dans l'édition. Donc là, ça s'explique. Et elle a été une formidable agente. Et ensuite, il y a d'autres, plus jeunes personnes qui ont voulu l'imiter, sans jamais d'ailleurs arriver au même niveau de notoriété. Donc, d'un pays à un autre, les situations peuvent être un peu différentes.
Vous pensez possible, Cynthia Libo, que les agents se développent en France ?
Je pense que c'est probablement la tendance à venir. Déjà, au niveau des... Bon, les acteurs, ils ont tous des agents, les artistes, les musiciens, les acteurs, et de plus en plus d'auteurs français ont des agents. Les premiers ont dû vraiment braver l'opprobre en France, parce que les agents étant mal vus, eux-mêmes, ils étaient mal vus. Et je pense qu'il y a même des éditeurs, enfin des cas où l'écrivain qui a pris un agent s'est brouillé avec son éditeur, qui ne voulait pas travailler avec l'agent, qui a dit non, 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 si on ne peut pas négocier directement avec vous, on ne veut pas. Donc c'était vraiment un acte de courage quelque part, où ils ont trouvé quand même leur intérêt, je pense, au bout du compte. J'espère que ça restera facultatif.
C'était Les agents littéraires, avec Elena Marienske, écrivaine, auteure de Les ennemis de la vie ordinaire, publié chez Flammarion. Fabrice Collin, éditeur chez Super 8 et écrivain, auteur de La poupée de Kafka, publié chez Actes Sud. François Samuelson, agent, directeur de l'agence Intertalent. Anne-Solange Noble, directrice des droits étrangers chez Gallimard. Cynthia Libo, directrice des éditions Baker Street et éditrice de Robert Little. Oliver Gallmeister, directeur des éditions Gallmeister. Juliette Jost, éditrice chez Grasset. Anna Yarota, directrice de l'agence Anna Yarota. Merci à Camille Trumer et Grégory Messina. Vous avez entendu des extraits du très bon feuilleton de France Culture, Septembre Rouge, écrit par Iris Dreyer et réalisé par Cédric Ossier. Coordination Irène Omelianenko. Attachée d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Stagiaires Julia Macarez et Marie Royer. Prise de son Benjamin Chauvin. Mixage Claude Nior. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné, réalisé par Anna Smuk pour Sur les Docks.